Bon, on pourrait dire ceci, tout s'est passé comme si le pouvoir, les pouvoirs qui avaient, si vous voulez, comme modalité et comme schéma organisateur, la souveraineté, eh bien ces pouvoirs s'étaient trouvés inopérants pour régir le corps économique et politique d'une société en voie à la fois d'explosion démographique et d'industrialisation, si bien que à la vieille mécanique du pouvoir de souveraineté, beaucoup trop de choses échappaient à la fois par en bas et par en haut, au niveau du détail et au niveau de la masse. C'est pour rattraper le détail que une première accommodation a eu lieu, accommodation de mécanismes de pouvoir sur le corps individuel, avec surveillance et dressage, ça a été la discipline. Bien sûr, ça a été l'accommodation la plus facile, la plus commode à réaliser, c'est pourquoi elle s'est réalisée le plus tôt, dès le 17e, début du 18e siècle, elle s'est réalisée à un niveau local, dans des formes, si vous voulez, intuitives, empiriques, fractionnées, et dans le cadre limité d'institutions comme l'école, l'hôpital, la caserne, l'atelier, etc. Et puis, vous avez eu ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, une seconde accommodation, elle, sur les phénomènes globaux, sur les phénomènes de population, avec les processus biologiques ou biosociologiques des masses humaines, accommodation beaucoup plus difficile, car bien entendu, elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation. On a donc, si vous voulez, deux séries, la série corps, organisme, discipline, institution, et la série population, processus biologique, mécanisme régularisateur et État. Un ensemble organique institutionnel, l'organodiscipline de l'institution, si vous voulez, et d'un autre côté, un ensemble biologique et étatique, la biorégulation par l'État. Bon, je ne veux pas faire jouer dans l'absolu cette opposition entre État et institution, parce que les disciplines tendent de fait toujours à déborder le cadre institutionnel et local où elles sont prises, et puis elles prennent facilement une dimension étatique dans certains appareils, par exemple comme la police, qui est à la fois un appareil de discipline et un appareil d'État, ce qui prouve que la discipline n'est pas toujours institutionnelle. Et de la même façon, ces grandes régulations globales qui ont proliféré au long du 19e siècle, on les trouve bien sûr au niveau étatique, mais au-dessous aussi du niveau étatique, avec toute une série d'institutions sous-étatiques, comme les institutions médicales, les caisses de secours, les assurances, etc. Bon, c'est la première remarque que je voudrais faire. D'autre part, ces deux ensembles de mécanismes, l'un disciplinaire, l'autre régularisateur, ne sont pas de même niveau. Ce qui leur permet précisément de ne pas s'exclure et de pouvoir s'articuler l'un sur l'autre. On peut même dire que dans la plupart des cas, les mécanismes disciplinaires de pouvoir et les mécanismes régularisateurs de pouvoir, les mécanismes disciplinaires sur le corps et les mécanismes régularisateurs sur la population sont articulés l'un sur l'autre. Prendre comme ça un ou deux exemples. Prenez, si vous voulez, le problème de la ville. Plus précisément, cette disposition spatiale, réfléchie, concertée, que constitue la ville modèle, la ville artificielle, la ville de réalité utopique telle qu'on l'a non seulement rêvée, mais constituée effectivement au XIXe siècle. Prenez quelque chose comme la cité ouvrière. La cité ouvrière telle qu'elle existe au XIXe siècle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on voit très bien comment elle articule en quelque sorte à la perpendiculaire des mécanismes disciplinaires de contrôle sur le corps, sur les corps, par son quadrillage, par le découpage même de la cité, par la localisation des familles dans chacune dans une maison, des individus chacun dans une pièce. Découpage, mise en visibilité des individus, normalisation des conduites, sorte de contrôle policier spontané qui s'exerce ainsi par la disposition même spatiale même de la ville. Donc, toute une série de mécanismes disciplinaires qu'il est facile de retrouver dans la cité ouvrière. Et puis, vous avez toute une série de mécanismes qui sont au contraire des mécanismes régularisateurs. Des mécanismes régularisateurs qui portent sur la population en tant que telle et qui induisent des conduites d'épargne, par exemple, qui sont liées à l'habitat, la location de l'habitat, éventuellement son achat, des systèmes d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse, des règles d'hygiène qui assurent la longévité optimale de la population, des pressions que l'organisation même de la ville fait jouer sur la sexualité, donc sur la procréation, les pressions qu'on exerce sur l'hygiène des familles, les soins apportés aux enfants, la scolarité, etc. Donc vous avez mécanisme disciplinaire et mécanisme régularisateur. Prenez un tout autre domaine, enfin tout autre, pas entièrement, mais prenez dans un autre axe quelque chose comme la sexualité. Au fond, pourquoi est-ce que la sexualité est devenue au XIXe siècle, un champ dont l'importance stratégique a été capitale? Eh bien, je crois que si la sexualité a été importante, c'est pour tout un tas de raisons, mais en particulier, il y a eu celle-ci, c'est que d'un côté, la sexualité, en tant que conduite exactement corporelle, relève d'un contrôle disciplinaire, individualisant, en forme de surveillance permanente, et les fameux contrôles, par exemple, de masturbation qui ont été exercés sur les enfants depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe, et ceci dans le milieu familial, dans le milieu scolaire, etc., représentent exactement ce côté du contrôle disciplinaire de la sexualité. Et puis d'un autre côté, la sexualité, eh bien, elle s'inscrit, par ses effets procréateurs bien sûr, elle s'inscrit et prend effet dans des processus biologiques larges qui concernent non plus le corps de l'individu, mais cet élément, cette unité multiple que constitue la population. La sexualité, elle est exactement au carrefour du corps et de la population. Donc elle relève de la discipline, mais elle relève aussi de la régularisation. L'extrême valorisation médicale de la sexualité au XIXe siècle, et là je crois son principe, dans cette position privilégiée de la sexualité entre organismes et population, entre corps et phénomènes globaux. De là aussi l'idée médicale que justement la sexualité, quand elle est indisciplinée et irrégulière, a toujours deux ordres d'effets. L'un sur le corps indiscipliné, qui est immédiatement sanctionné par toutes les maladies individuelles que le débauché sexuel s'attire sur lui-même. Un enfant qui se masturbe trop sera malade toute sa vie. Sanction disciplinaire au niveau du corps, mais en même temps, une sexualité débauchée, pervertie, etc., a des effets au niveau de la population, puisque celui qui a été débauché sexuellement est censé avoir une hérédité, une descendance qui va être perturbée elle aussi, et ceci pendant des générations et des générations, à la septième génération et à la septième de la septième génération, et c'est la théorie de la dégénérescence. Que la sexualité, en tant qu'elle est au foyer de maladies individuelles, et étant donné qu'elle est d'autre part au noyau de la dégénérescence, représente très exactement ce point d'articulation du disciplinaire et du régularisateur du corps et de la population. Nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie, ou qui a pris, si vous voulez, disons, la vie en général en charge, avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population. Biopouvoir, par conséquent, biopouvoir dont on peut repérer aussitôt à les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice, paradoxe qui apparaît d'un côté, si vous voulez, avec le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer, selon les droits qui sont donnés à tout souverain, des millions et des centaines de millions d'hommes, après tout ceci est traditionnel, mais ce qui fait que le pouvoir atomique est, pour le fonctionnement du pouvoir politique actuel, sorte de paradoxe difficile à contourner, sinon tout à fait incontournable, c'est donc que dans le pouvoir de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique, on a la mise en jeu et d'un pouvoir de souveraineté qui tue, mais également un pouvoir qui est celui de tuer la vie elle-même, de sorte que dans ce pouvoir atomique, le pouvoir qui s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie, où il est souverain et il utilise la bombe atomique, mais du coup il ne peut plus être pouvoir, biopouvoir, pouvoir d'assurer la vie comme il l'est depuis le 19e siècle. Et à l'autre limite, vous avez alors l'excès, au contraire, non plus du droit souverain sur le biopouvoir, mais excès du biopouvoir sur le droit souverain. Cet excès du biopouvoir, il apparaît lorsque, et techniquement et politiquement, donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie, mais de faire proliférer la vie, de fabriquer du vivant, de fabriquer du monstre, de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur. Extension formidable du biopouvoir qui, à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique, va déborder toute la souveraineté humaine. Bon. Eh bien, je m'excuse de ces longs parcours à propos du biopouvoir, mais je crois que c'est sur ce fond-là que l'on peut retrouver le problème que j'avais essayé de poser. Vous me donnerez un peu plus de temps que... jusque vers 11h15, monsieur. Jusque vers 11h15, monsieur. Bon, alors, dans cette technologie de pouvoir, qui a pour objet, donc, et pour objectif la vie, et qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis le 19e siècle. Comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur? Comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer? Comment, s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie, d'en prolonger la durée, d'en multiplier les chances, d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits, comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer, de réclamer la mort, de demander la mort, de faire tuer, de donner l'ordre de tuer, d'exposer à la mort non seulement ses ennemis, mais même ses propres citoyens? Comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer le pouvoir de la mort? Comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir? Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient le racisme. C'est là qu'intervient le racisme. Alors encore une fois, je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque, il existait depuis bien longtemps, mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs. Ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'État, c'est bien l'émergence de ce biopouvoir. C'est à ce moment-là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir tel qu'il s'exerce dans les États modernes. Et ce qui fait qu'il n'y a guère de fonctionnement moderne de l'État qui, à un certain moment, à une certaine limite et dans certaines conditions, ne passe pas par le racisme. En effet, qu'est-ce que c'est que le racisme? Eh bien, c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge, d'introduire enfin une coupure. La coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir, dans le continuum biologique de l'espèce humaine. L'apparition des races, la distinction des races, la hiérarchie des races, la qualification des races, de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures, tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge. Ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres. Bref, de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique. Ça va permettre en gros, si vous voulez, au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races, ou plus exactement, de traiter l'espèce, de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément les races. C'est là la première fonction du racisme. Donc, de fragmenter, de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir. Et d'un autre côté, Eh bien, le racisme aura, et c'est sa seconde fonction, il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive, si vous voulez, du type « plus tu tueras, plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir, et plus, du fait même, toi tu vivras ». Je me dirais que cette relation entre « si tu veux vivre, il faut que tu fasses mourir », il faut que tu puisses tuer. Cette relation, après tout, ce n'est pas le racisme ni l'État moderne qui l'a inventé, c'est la relation guerrière. Pour vivre, il faut bien que tu massacres tes ennemis. Mais le racisme fait, justement, fonctionner cette relation type guerrier. Si tu veux vivre, il faut que l'autre meure. Le racisme va la faire fonctionner, va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du biopouvoir. D'une part, en effet, le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement, mais une relation de type biologique. Plus les espèces inférieures tendront à disparaître, plus les individus anormaux seront éliminés, moins il y aura de dégénérés par rapport à l'espèce, plus moi, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, je vivrai, je serai fort, je serai vigoureux, je pourrai proliférer. La mort de l'autre, ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de la mauvaise race, de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale, c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine et plus pure. Rapport donc non pas militaire, guerrier ou politique, mais rapport biologique. Et c'est si ce mécanisme peut jouer, c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer, ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme, ce sont les dangers, dangers externes ou internes par rapport à la population et pour la population. Autrement dit, la mise à mort, l'impératif de mort, n'est recevable dans le système du biopouvoir que s'il tend, non pas à la victoire sur des adversaires politiques, mais s'il tend à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race. La race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation. Vous comprenez alors dans ces conditions comment et pourquoi on peut comprendre que les États les plus meurtriers sont en même temps forcément les plus racistes. Et bien sûr, là, il faut prendre l'exemple du nazisme. Après tout, le nazisme, c'est bien, en effet, le développement jusqu'au paroxysme des mécanismes de pouvoir nouveaux qui avaient été mis en place depuis le XVIIIe siècle. Pas d'État plus disciplinaire, bien sûr, que le régime nazi. Pas d'État non plus où les régulations biologiques soit reprise en compte d'une manière plus serrée et plus insistante. Pouvoir disciplinaire, biopouvoir, tout ceci parcouru, soutenu à bout de bras la société nazie, prise en charge du biologique, de la procréation, de l'hérédité, prise en charge aussi de la maladie, des accidents, par de sociétés à la fois plus disciplinaires et plus assurantielles que celle qui avait été mise en place, ou en tout cas projetée par le nazisme. Le contrôle des aléas propres au processus biologique était un des objectifs immédiats du régime. Mais en même temps qu'on avait cette société donc universellement assurantielle, universellement sécurisante, universellement régulatrice et disciplinaire, eh bien en même temps, à travers cette société, déchaînement le plus complet du pouvoir meurtrier, c'est-à-dire de ce vieux pouvoir souverain de tuer, et ce pouvoir de tuer qui traverse tout le corps social de la société nazie, eh bien, ce pouvoir meurtrier, il se manifeste, eh bien, d'abord parce que le pouvoir de tuer le pouvoir de vie et de mort, il est donné non pas simplement à l'État, mais à toute une série d'individus, à une quantité considérable de gens, que ce soit les SA, les SS, etc. À la limite même, tout le monde a droit de vie et de mort sur son voisin dans l'État nazi, ne serait-ce que par la conduite de dénonciation, qui permet effectivement de supprimer ou de faire supprimer celui qui est à côté de vous. Donc, déchaînement du pouvoir meurtrier et du pouvoir souverain à travers tout le corps social, également par le fait que la guerre est explicitement posée comme un objectif politique, et pas simplement au fond comme un objectif politique pour obtenir un certain nombre de moyens, mais comme une sorte de phase ultime et décisive de tous les processus politiques. La politique doit aboutir à la guerre, et la guerre doit être la phase finale et décisive qui va couronner l'ensemble. Et par conséquent, ce n'est pas simplement la destruction des autres races qui est l'objectif du régime nazi. La destruction des autres races est une des faces du projet, l'autre face étant d'exposer sa propre race au danger absolu et universel de la mort, le risque de mourir. L'exposition à la destruction totale est un des principes, est inscrit parmi les devoirs fondamentaux de l'obéissance nazie et parmi les objectifs essentiels de la politique. Il faut que l'on arrive à un point tel que la population tout entière soit exposée à la mort. Seule cette exposition universelle de toute la population à la mort pourra effectivement la constituer comme race supérieure et la régénérer définitivement en face de races ou qui auront été totalement exterminées ou qui seront définitivement asservies. On a donc dans la société nazie cette chose tout de même extraordinaire. C'est une société qui a absolument généralisé le biopouvoir, mais qui a en même temps généralisé le droit souverain de tuer. Les deux mécanismes, celui classique, archaïque, qui donnait à l'État droit de vie et de mort sur ses citoyens, et le nouveau mécanisme organisé autour de la discipline, de la régulation, bref, le nouveau mécanisme de biopouvoir, se trouvent exactement coïncidés. De sorte qu'on peut dire ceci, c'est que l'État nazi a rendu absolument coextensif le champ d'une vie qu'il aménage, protège, garantit, cultive biologiquement, et le droit en même temps, le droit souverain de tuer quiconque, non seulement les autres, mais les siens propres. Il y a eu chez les nazis une coïncidence d'un biopouvoir généralisé avec une dictature à la fois absolue et retransmise à travers tout le corps social par cette formidable démultiplication du droit de tuer et de l'exposition à la mort. On a un État absolument raciste, un État absolument meurtrier et un État absolument suicidaire. État raciste, État meurtrier, État suicidaire, cela se superpose nécessairement et a abouti, bien sûr, à la fois à la solution finale par laquelle on a voulu éliminer à travers les juifs toutes les autres races dont les juifs étaient à la fois le symbole et la manifestation, et en même temps donc solution finale des années 1942-43, et puis le télégramme 71 qui au mois d'avril 1940, par lequel en avril 1945 Hitler donnait ordre de détruire les conditions de vie du peuple allemand lui-même. Solution finale pour les autres races, suicide absolu de la race, c'est à cela que menait cette mécanique, je crois, inscrite dans le fonctionnement de l'État moderne. Seul, bien sûr, le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du biopouvoir, mais le jeu, il est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les États. De tous les États modernes, de tous les États capitaliste, eh bien, pas sûr. Et je crois que justement, alors là, ça serait une autre démonstration, je crois que l'État socialiste, le socialisme, est tout aussi marqué de racisme que le fonctionnement de l'État moderne, de l'État capitaliste.